je vais brièvement vous présenter notre communicant, Jean-François Bonnert. Le parquet national financier, créé après les tumultes de l'affaire Cahuzac, a aujourd'hui 10 ans. Salué par les uns qui reconnaissent le rôle majeur qu'il joue pour lutter contre la corruption et la grande délinquance financière, vivement critiqué par d'autres qui réclament haut et fort sa suppression et semblent peut-être mal le connaître, il ne laisse donc pas indifférent, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Et répondant à une critique de Serge Sûr, je n'aurais pas dû utiliser comme titre une institution contestée, mais utiliser le mot une institution controversée. Et je crois que Serge Sûr a raison. Il faut avoir le sens de la nuance. Certaines des contributions de la vaste et passionnante enquête à laquelle s'est livrée, je l'ai cité plusieurs fois, la revue Commentaire en 2022, montrent sous des plumes autorisées, peut-être pas toujours autorisées, que ce parquet dérange. Il n'agit pourtant pas en franc-tireur. Son champ de compétences n'est pas vague, il est défini. Il se conforme, comme tous les parquets de France, fût-il national, aux dispositions du Code de procédure pénale, sous le strict contrôle de la Cour d'appel de Paris, de la Cour de cassation et, le cas échéant, de la Cour européenne des droits de l'homme, à travers les décisions qui sont rendues sur ces réquisitions. Il est reconnu en Europe et même au-delà comme étant un facteur majeur de lutte contre la corruption. Jean-François Bonnert, qui le dirige depuis plus de 4 ans, va nous exposer ce qu'est ce parquet. À compétence nationale, donc, quelle est sa compétence exacte? Quels sont les moyens dont il dispose? Quelle est son activité? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre? Les critiques dont il fait l'objet? Les réussites dont il peut se targuer? Les défis, nombreux, encore nombreux, qu'il doit relever? Bref, ce qu'est son avenir? Je note, s'agissant des différents postes qu'a occupé Jean-François Bonnert et qui témoignent en quelque sorte de la mobilité une nouvelle fois des magistrats français qui ne sont pas tous enterrés dans leurs tribunaux. Jean-François Bonnert a été magistrat de liaison à Berlin. Il a été en poste à Eurojust, organisme de coopération judiciaire européen à La Haye. Il a été procureur de la République adjoint à Dijon, avocat général à la Cour d'appel de Bourges, procureur de la République de Rouen, procureur général de la Cour d'appel de Reims, et il fut à 2 doigts, début 2019, d'être nommé procureur général du nouveau parquet européen, la candidate roumaine l'ayant, en ces temps de Jeux olympiques, comme disent les sportifs, coiffé sur le fil. Nous allons donc l'écouter avec beaucoup d'intérêt. J'espère que vous aurez des questions à lui poser et nous sommes vraiment ravis de l'accueillir en le remerciant d'avoir su distraire un peu de son temps pour nous alphabétiser ou nous aider à mieux connaître encore le parquet national financier. Nous vous écoutons, Jean-François.
Monsieur le chancelier, Monsieur le président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, intervenant devant votre noble académie le 3 juin dernier, Maître François Saint-Pierre, avocat pénaliste de renom, vous proposait de poser le regard d'un avocat sur la justice pénale en 2024. Citant l'action du parquet national financier, qui est convenu aujourd'hui d'être appelé le PNF, en matière de convention judiciaire d'intérêt public, il posait le diagnostic suivant devant vous. Le juge d'instruction n'est plus le magistrat le plus puissant de France, comme du temps de Balzac. Ce sont désormais les procureurs de la République qui sont les maîtres d'œuvre de ce formidable appareil judiciaire. Leurs pouvoirs sont considérables. Fin de citation. Si, de mon point de vue de magistrat, la place et le rôle du ministère public, en d'autres termes, du parquet, ne doivent pas s'inscrire dans un positionnement de puissance, mais bien davantage dans celui d'une autorité judiciaire, il convient de rappeler que le procureur de la République est le magistrat auquel la loi confie la charge de la mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines. Telle est la mission des 166 parquets de première instance que compte la France à ce jour, parmi eux deux parquets à dimension nationale, le parquet antiterroriste, et Jean-François Ricard s'est exprimé devant vous il y a quelques jours, et bien sûr le parquet financier. Permettez-moi aujourd'hui de vous proposer à mon tour un regard sur une institution encore jeune. Elle fête cette année, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, son 10e anniversaire. Parfois critiquée, parfois controversée, je n'en fais pas ici mystère, mais aussi fortement identifiée et quelquefois enviée ou admirée, surtout depuis l'étranger, le plus souvent, où elle est désormais connue par son trigramme acronymique, le PNF. Parcourons ensemble, si vous le voulez bien, d'abord sa genèse, qui permet à la fois de mieux comprendre son rôle, ses attributions et sa composition, mais aussi de dresser un rapide bilan, peut-être justement en contrepoint aux critiques dont le PNF est parfois l'objet. Arrêtons-nous ensuite quelques instants sur ses missions dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière. Projetons-nous enfin dans l'avenir à travers quelques défis que j'ai identifiés, défis actuels que rencontre le parquet national financier. La genèse tout d'abord. Ce n'est sans doute pas un hasard si la vie du parquet national financier, du PNF, tente à susciter, même après 10 ans d'existence, des commentaires toujours passionnés, parfois critiques, voire hostiles. Sa naissance était déjà bercée d'un contexte politique et international qui n'avait laissé personne indifférent. Le contexte politique de l'époque. Nous sommes en 2013. Ce contexte vise bien sûr le scandale Cahuzac, qui allait conduire le législateur à donner au futur PNF une compétence privilégiée en matière de lutte contre la fraude fiscale. Et, ne l'oublions pas, l'autorité judiciaire a sanctionné de manière exemplaire le ministre fautif. Un peu moins connu du grand public, le contexte international de l'époque n'en est pas moins déterminant. En effet, dans les années 2011-2012, l'OCDE avait émis de vives critiques à l'égard de la France pour son manque de détermination et de résultats dans la lutte contre la corruption. Ces constats opérés, l'OCDE a soumis notre pays à une veille attentive à l'occasion des rapports d'évaluations ultérieures. Par la suite, tirant un bilan très positif à la fois de la création du PNF, mais aussi de son action et de ses résultats à ce moment-là en 8 ans d'existence, le rapport dit de phase 4 de l'OCDE reconnaît désormais dans ce parquet un des fers de lance de la lutte contre la corruption sur la scène internationale, au même titre, et je tiens à le souligner, au même titre que le Department of Justice américain, l'équivalent de notre ministère de la Justice, ou encore le Serious Fraud Office britannique, qui est notre homologue direct à Londres. Référence est faite au succès remporté par le PNF dans le cadre d'affaires pénales emblématiques liées notamment à la corruption d'agents publics étrangers. On peut penser ici aux affaires Airbus, Société Générale, affaires Aegis, entre autres, et bien sûr aussi au succès auquel viennent s'adjoindre les résultats obtenus dans des affaires majeures de fraude fiscale. Je pense ici aux dossiers HSBC, Carmignac, Google, McDonald's. Le parquet national financier a été créé par une loi organique du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier, et le parquet a débuté son activité le 1er février 2014. Son champ de compétences est défini à l'article 705 du Code de procédure pénale. Rassurez-vous, c'est le seul article que je citerai dans mon propos cet après-midi. Et ce champ de compétences aujourd'hui comprend les éléments suivants. Nous sommes compétents sur l'ensemble des atteintes à la probité revêtant un caractère de grande complexité. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion de probité. Nous avons ensuite dans notre escarcelle la fraude fiscale et les escroqueries à la TVA revêtant elles aussi un caractère de grande complexité. Nous sommes compétents pour le recel et le blanchiment de ces infractions, mais aussi plus récemment pour les atteintes aux marchés financiers, ce qu'on appelle plus classiquement les délits boursiers, et de façon toute récente, nous sommes compétents pour les délits d'atteinte à la concurrence prévus par le Code de commerce. Ces infractions relèvent d'une compétence concurrente avec celle des autres parquets territoriaux, à l'exception toutefois des atteintes aux marchés financiers, dans la mesure où le PNF dispose ici d'une compétence pénale exclusive, mais qu'il exerce en réalité en concurrence avec les enquêtes administratives de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Au plan des moyens, qu'est le PNF ? Qui sont les membres du PNF aujourd'hui ? Le PNF constitue à ce jour une équipe forte de 46 personnes, 20 magistrats, 9 assistants spécialisés, 3 juristes assistants et assistants de justice, ainsi que 14 fonctionnaires du greffe. Chacune des 760 affaires en cours, à l'instant où je vous parle, est confiée à un binôme de magistrats, impliquant donc une charge de travail très conséquente pour chacun des 9 binômes. Ce sont 18 magistrats opérationnels qui travaillent sur les dossiers. Ils ont en moyenne près de 90 dossiers à piloter par binôme. Ces affaires donnent tout lieu à enquête, soit sous le régime de ce que les pénalistes appellent l'enquête préliminaire, soit après ouverture d'une information judiciaire. L'enquête préliminaire revient à faire garder aux magistrats du parquet le contrôle et la direction de l'enquête, dont les actes d'investigation, audition, perquisition, garde à vue, sont délégués en général à un service d'enquête de la police. On peut penser à l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, le CLIF, mais aussi la gendarmerie, ou encore un service spécialisé tel que l'Office national antifraude. La seconde procédure, l'ouverture d'informations judiciaires, consiste à saisir l'un des 10 juges d'instruction spécialisés en matière économique et financière du tribunal judiciaire de Paris. Magistrats du siège et à ce titre indépendants, ils conduisent l'enquête soit eux-mêmes, soit avec délégation d'actes à un service enquêteur, les mêmes services que ceux que je viens de rappeler. Pour autant, l'affaire nécessite à son démarrage toujours une évaluation fine, notamment de la pertinence du contenu d'une plainte, par exemple, et il peut être décidé de conserver l'affaire en enquête interne au PNF, sans saisir à ce stade un service extérieur, les magistrats du parquet étant habilités à procéder eux-mêmes aux actes les plus élémentaires, audition, réquisition. Cette dernière formule vise à s'assurer de la pertinence d'une saisine, à s'assurer également de la réalité des faits qui sont portés à notre connaissance avant toute délégation à un service d'enquête dont il convient, de mon point de vue, de ménager les effectifs, déjà bien trop nombreux et destinés à être engagés sur des enquêtes d'ampleur et à véritables enjeux. D'un point de vue statistique, les 760 affaires en cours aujourd'hui au PNF se retrouvent comme suit dans les quatre grands domaines de compétences que j'ai énoncés à l'instant. Les infractions à la probité représentent aujourd'hui 47% de notre portefeuille. Se cachent sous cette dénomination des affaires de corruption d'agents publics étrangers, de trafic d'influence, de détournement de fonds publics, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt. Juste après, nous avons la fraude fiscale aggravée qui représente 44% de notre portefeuille. Et enfin, les deux derniers domaines, plus résiduels, les atteintes aux marchés financiers avec 6% de nos affaires et tout dernièrement, les infractions anticoncurrentielles avec 3% de notre portefeuille. Si l'on agrandit à présent la focale à l'échelle des 10 ans du PNF, un premier bilan chiffré peut être dressé à travers les données majeures suivantes que j'ai collectées pour vous, concentrées autour de l'activité et des résultats du PNF. En 10 ans, ce sont 3234 procédures qui ont été initiées. Nous avons émis 793 demandes d'entraide pénale internationale, qui est un socle pour nous dans notre activité, le besoin de recourir à la recherche de la preuve à l'étranger, et nous avons été destinataires de nos homologues étrangers de 302 demandes d'entraide vers la France et donc exécutées par le parquet national financier. Nous avons procédé à ce jour à 369 saisies immobilières, comptes bancaires, objets mobiliers divers, 369 saisies qui ont permis de figer 1,2 milliard d'euros d'argent illicite. Les enquêtes préliminaires durent en moyenne 3 ans. C'est également une donnée qui est établie, parfois estimée trop longue, parfois trop courte. Je laisse évidemment chacun juge de cet élément temporel. S'agissant des résultats, le PNF a engrangé aujourd'hui ou a réussi à faire condamner 532 personnes, dont 97 par le régime dit du plaidé coupable de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ces 532 condamnations peuvent être déclinées en 333 personnes condamnées en matière fiscale, 129 en matière d'atteinte à la probité et 40 en matière boursière. J'ai également signé avec ma prédécesseure 20 conventions judiciaires d'intérêt public qui ont rapporté, ou qui représentent en tout cas pour le Trésor public, un montant de 5,47 milliards d'euros d'amendes d'intérêt public et de redressements fiscaux connexes. Si je fais un grand total de l'action, notamment sous l'angle des confiscations et des amendes qui ont été prononcées, le parquet national financier s'est inscrit dans les finances publiques à hauteur de 12,2 milliards d'euros. Si le PNF n'a, de toute évidence, pas à rougir de son bilan actuel, de son bilan décennal, les contenteurs du parquet national financier, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, surtout en France, peut-être un petit peu moins à l'étranger, où le PNF est si souvent cité en exemple, eh bien les contenteurs concentrent leur feu autour de deux séries de critiques ou controverses, comme on voudra. J'aime bien aussi le mot de critique. La première critique, conjoncturelle, est à mon sens appelée à s'estomper, tandis que la seconde, bien plus structurelle, hélas, risque de perdurer encore quelque temps au resco référence. La première source de contention vise le recours du PNF à la justice dite négociée. Comment une justice peut-elle se négocier ? Est ciblée ici l'utilisation de la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, et peut-être également la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le plaidé coupable, à l'égard principalement des personnes morales, les personnes physiques étant exclues du champ de la CJIP. Cette critique me paraît pouvoir être utilement combattue en rappelant tout d'abord que CRPC, le plaidé coupable, comme la CJIP, se trouvent être chacune des instruments de procédure pénale institués par le législateur pour être mis à disposition du ministère public, c'est-à-dire de l'ensemble des 166 parquets de la République, incluant les deux parquets nationaux. Ainsi, le plaidé coupable est bien un mode de poursuite des infractions pénales du droit pénal français, tandis que la CJIP constitue une alternative aux poursuites. S'agissant plus spécifiquement de cette dernière, il me semble préférable de substituer à la notion de justice négociée celle de justice transactionnelle, voire de justice d'adhésion. Tant le premier vocable incite trop rapidement à une méprise fallacieuse et, disons-le, injuste pour la réalité judiciaire qu'il recouvre. Enfin, à écouter nos contempteurs en la matière, toute l'action du PNF serait aujourd'hui concentrée dans la seule justice négociée. Mais les chiffres sont têtus. Pour l'année 2023, les CJIP ne représentent que un peu moins de 5% de nos poursuites. La seconde série de critiques visant le PNF de manière récurrente consiste à l'accuser de faire de la politique au travers des affaires qu'il traite. Si l'on retrouve les premières traces de telles critiques dès sa création, le PNF se voit régulièrement reprocher, telle une tare congénitale, d'être, je cite les contempteurs, un instrument pénal armé par la gauche pour combattre la droite sur le terrain judiciaire. Toutes ces décisions de poursuite, lorsque dirigées contre des personnalités appartenant à la droite française, seraient ainsi motivées par des considérations ressortissantes à la lutte politique. En d'autres termes, le PNF serait ni plus ni moins qu'un parquet politique. Mesdames et messieurs, cette vision des choses est fausse. Elle est gravement fausse. Elle revient en réalité à confondre, de mon point de vue, et dangereusement, les acteurs de nos affaires avec leurs actes. Permettez-moi de le dire avec toute la solennité qu'impose ma prise de parole devant votre noble académie. Le PNF ne s'attaque jamais à telle personne particulièrement exposée, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, parce qu'elle appartiendrait à un courant politique ou de pensée donné. Bien au contraire, le PNF engage, le cas échéant, des poursuites lorsqu'il ne classe pas l'affaire au regard de la gravité de faits pénaux commis dans le strict spectre des infractions de sa compétence matérielle précitée tout à l'heure, que je vous ai rappelé à l'instant, et ayant causé un trouble majeur à l'ordre public. La gravité repose ainsi, d'abord et avant tout, sur l'acte quel qu'en soit l'acteur. Notre démarche strictement professionnelle, à l'image au demeurant de celle de tout magistrat du parquet ou du siège, c'est sa déontologie, s'inscrit dans un double process. Un process d'abord juridique, qui revient à analyser des faits à la lumière du droit pénal, et ensuite un process judiciaire, avec la décision d'approfondir l'analyse par une enquête, décision ensuite suivie d'un acte de poursuite ou d'un acte de classement à l'issue de l'enquête. Les considérations individuelles restent bien sûr un facteur à prendre en compte dans ce processus, dès lors que la loi demande à tout magistrat d'individualiser et de personnaliser les peines éventuellement appliquées. Mais c'est tout. En d'autres termes, la loi, écrite en majuscule, est et restera toujours notre seule boussole. Elle seule nous indique le cap à suivre dans notre navigation judiciaire, surtout par gros temps. Permettez-moi de vous éclairer, d'apporter un petit propos cette fois-ci sur le PNF et ses missions en matière de lutte contre la délinquance économique et financière. Ce sera le deuxième point de mon propos. Les infractions sur lesquelles le PNF est amené à enquêter et le cas échéant à engager des poursuites sont, nous l'avons vu à l'instant, étroitement encadrées par la loi. Il s'agit tout d'abord des atteintes à la probité, qui représentent presque la moitié des affaires actuellement en cours. Corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, pantouflage, j'ai déjà indiqué ces infractions, ce sont autant d'infractions qui amènent le PNF à investiguer au sein des montages les plus complexes de l'ingénierie juridique et financière pour tenter de débusquer et sanctionner les contenteurs de la moralité de la vie publique et de la vie des affaires. Historiquement, ces infractions vous évoquent nécessairement de grandes affaires ancrées dans notre inconscient collectif. Du plus lointain que je puisse faire remonter ma mémoire, je crois que la première grande affaire de détournement de fonds publics de l'histoire moderne de notre pays remonte au XVIIe siècle, avec l'affaire Fouquet, alors surintendant des finances de Louis XIV, convaincu à un moment de son histoire du délit de pécula, c'était l'ancien nom du délit de détournement de fonds publics, Fouquet fut en répression incarcéré dans la forteresse de Pignerol et vit l'ensemble de ses biens confisqués, notamment le célèbre château de Vaux-le-Vicomte. Au XIXe siècle, deux scandales retentissants vont marquer notre histoire. Le scandale de Panama, tout d'abord, qui va tenir en haleine les Français entre 1892 et 1893. Vaste scandale de corruption impliquant une centaine de parlementaires et un ministre très en vue à l'époque, convaincu de s'être laissé corrompre pour renflouer les caisses de la Compagnie universelle du canal interocéanique, fondée, on s'en souvient, par Ferdinand de Lesseps, en vue de l'achèvement du canal de Panama. Puis, peu de temps après, l'affaire dite du scandale des décorations, qui va amener les parlementaires à introduire dans notre droit le délit de trafic d'influence, après la découverte d'un vaste trafic, précisément, de croix de la Légion d'honneur, organisé par le député Daniel Wilson depuis l'Élysée, où il était hébergé par son beau-père, le président de la République de l'époque, Jules Grévy. Dans les années 80 du siècle dernier, l'affaire dite des emplois fictifs de la ville de Paris, qui vaudra à l'ancien secrétaire général et à l'ancien président du RPR, par ailleurs directeur de cabinet et maire de Paris, qui allait ensuite devenir Premier ministre et Président de la République, d'être condamné pour détournement de fonds publics. Il n'aura donc pas fallu attendre la création du PNF en 2013 pour que la justice s'empare de ce que le sociologue américain Edwin Sutherland a désigné dès les années 1940, sous le terme de « délinquance en col blanc » ou originellement « white collar crime ». Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis la création du PNF, ce sont des affaires qui font encore régulièrement la une de l'actualité, à l'occasion de ce que les médias aiment à présenter sous l'expression de « scandales politico-financiers ». Vous les avez nécessairement en tête, des affaires comme les affaires Fillon ou plus récemment l'affaire Mercier, dites des affaires d'emploi fictif, qui renvoient au délit de détournement de fonds publics pour lesquels ces deux anciens parlementaires ont été condamnés à raison des conditions d'emploi de leurs assistants parlementaires. En guise d'illustration, je citerai ici aussi les affaires Société Générale ou l'affaire Airbus, des affaires de corruption internationale ayant donné lieu à la conclusion de conventions judiciaires d'intérêt public pour des montants particulièrement significatifs. 250 millions d'euros d'amende dans le premier cas, plus de 2 milliards d'euros dans le second, concernant des pots de vin versés à des agents publics étrangers pour faciliter la conclusion de contrats au bénéfice de ces sociétés. La particulière proactivité du PNF dans ce type d'affaires répond directement à la volonté à la fois du législateur, mais aussi du ministère de la Justice, qui détermine la politique pénale en la matière. Notre socle légal d'intervention réside bien sûr et d'abord dans la loi du 6 décembre 2013. C'est elle qui a créé le PNF, mais qui a par ailleurs aussi substantiellement augmenté le quantum des peines d'amende encourues qui peuvent désormais être portées jusqu'au double du produit de l'infraction. Il faut mentionner aussi la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016 qui a institué, on en a déjà parlé, la convention judiciaire d'intérêt public et a créé le délit de trafic d'influence d'agents publics étrangers jusqu'alors non incriminés dans notre pays. Disons-le clairement, ces textes de loi s'inscrivent tous dans un contexte international incitant les États membres de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'OCDE à se doter d'instruments juridiques efficaces en la matière. Il s'agit de la Convention dite de Paris de 1997 de l'OCDE, mais aussi des conventions du GRECO en 2002, c'est le Conseil de l'Europe, et enfin de la convention dite de Mérida de 2003, sous l'égide de l'ONU. Ces conventions présentent en outre une spécificité commune. Pour s'assurer de leur respect par les États signataires, elles créent des mécanismes d'examen par les pairs, ce qu'on appelle en anglais « peer review », donnant lieu à la publication régulière de rapports de suivi. À titre d'exemple, la France a récemment fait l'objet d'un examen dit de « suivi de phase 4 » par le groupe anticorruption de l'OCDE, après examen de notre pays par des procureurs suisses et canadiens. Cette évaluation a donné lieu à un rapport très positif à l'égard du PNF, dont je ne résiste pas à la tentation de vous livrer ici quelques extraits. Je cite. Dans son évaluation de phase 4, le groupe de travail a salué les progrès remarquables réalisés par la France depuis la phase 3 dans la mise en œuvre de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Ces progrès ayant été matérialisés par la multiplication significative du nombre d'enquêtes ouvertes et l'imposition de sanctions définitives dans 14 affaires qui s'ajoutent aux 3 affaires ayant conduit à l'imposition de sanctions définitives au moment de l'adoption du rapport dit de phase 3. Le groupe de travail constate aujourd'hui avec satisfaction que depuis l'adoption du rapport de phase 4, la France a continué d'être proactive dans la résolution des affaires de corruption d'agents publics étrangers et a poursuivi sa montée en puissance de la mise en œuvre de la Convention. Fin de citation. Il s'agit bien là d'un satisfecit global donné à l'action du PNF depuis sa création en matière de lutte contre la corruption internationale. Un regard critique a néanmoins aussi été jeté par l'OCDE sur des points de préoccupation quant à la capacité du parquet national financier à continuer à mener avec sérénité ce type d'enquête. Je cite encore l'OCDE, si vous me le permettez. Le groupe de travail, début de citation, le groupe de travail continue d'être préoccupé par les problèmes de ressources affectant tous les maillons de la chaîne pénale qui demeurent prégnants. Le groupe de travail regrette également que les autorités françaises ne se soient pas saisies de plusieurs recommandations qui les invitent à renforcer les garanties d'indépendance du parquet. Fin de citation. Satisfecit, sed non satiati, si vous me permettez de paraphraser Baudelaire. Tout n'est donc pas encore parfait. Il est vrai en effet que la pénurie d'enquêteurs spécialisés au sein des services de police comme l'OCLIF est un sujet majeur de préoccupation pour mes équipes. Mais je dois aussi à l'honnêteté de dire qu'il aura été fait beaucoup par les pouvoirs publics ces 10 dernières années au regard de ce qui préexistait. Je distingue clairement une volonté politique forte sur ces sujets en matière de politique pénale, comme en atteste la publication en juin 2020 de la circulaire dite Belloubet relative à la lutte contre la corruption internationale qui fait du PNF le chef de file en la matière en France et le référent exclusif sur le plan judiciaire vis-à-vis des autorités judiciaires étrangères telles nos homologues britanniques ou américains. Il serait certainement souhaitable que cet élan puisse être réitéré et renforcé, car je dois dire que parfois, face à certaines critiques de mauvaise foi instrumentalisées contre le PNF, un soutien plus vigoureux de la part des pouvoirs publics serait grandement apprécié. Outre les atteintes à la probité, le PNF a également dans son giron la lutte contre la grande délinquance fiscale, qui représente, je vous l'avais vu tout à l'heure, presque la moitié de notre portefeuille, la deuxième moitié de notre portefeuille. Et pour cause. À l'origine de la création même du PNF, on trouve, je l'ai rappelé, le scandale de l'affaire Cahuzac en 2012. Affaire, évidemment, qui concernait des faits de blanchiment de fraude fiscale impliquant le ministre du Budget à l'époque et relatif à des fonds non déclarés au fisc, fonds qui étaient dissimulés sur des comptes bancaires en Suisse et à Singapour. Là encore, les nouveaux instruments offerts par le législateur ont considérablement élargi le champ d'efficacité du PNF. La loi fraude de 2018, tout d'abord, est venue assouplir ce que l'on appelait, ou ce qu'on appelle toujours, le verrou de Bercy, et a ouvert la possibilité de recourir désormais à la justice transactionnelle, telle que la Convention judiciaire d'intérêt public ou encore le plaidé coupable. À titre d'exemple, c'est le recours à ce type de réponse pénale qui a permis au PNF de sanctionner à hauteur de plus de 500 millions d'euros chacun des grands groupes internationaux fraudeurs tels que McDonald's ou Google. Nous sommes là en présence d'enquêtes extrêmement lourdes et complexes, en raison notamment de la sophistication toujours plus pointue des montages auxquels ont recours les grands groupes et les individus les plus fortunés, le plus souvent aidés par des cabinets d'avocats spécialisés dans le cadre de procédés communément dénommés, avec pudeur, optimisation fiscale, mais dont on nous assure en général la main sur le cœur qu'ils n'ont rien à voir avec la fraude fiscale. Vous mesurerez ici à quel point le concours des experts de l'administration fiscale et celui de nos assistants spécialisés est indispensable à la bonne fin de nos enquêtes en cette matière. Un dernier mot enfin sur une partie un peu résiduelle de notre activité qui concerne les abus de marché financier et les ententes anticoncurrentielles. Ce sont des affaires extrêmement techniques sur le plan financier et économique, en général plutôt traitées par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ou encore l'autorité de la concurrence, mais sur lesquelles le PNF peut être amené à apporter sa contribution en lançant des investigations pénales, notamment lorsque ces faits présentent un degré élevé de technicité, justifiant le recours à des techniques d'investigation judiciaire spécifiques, telles que les écoutes téléphoniques ou la garde à vue, dont ne disposent pas les autorités administratives indépendantes que j'ai citées. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de me tourner vers l'avenir et de tracer avec vous et devant vous quelques éléments de défis qui attendent le PNF. Au-delà du panorama général que je viens de retracer, je souhaiterais réfléchir avec vous sur ce qui, selon moi, constitue les principaux défis qui se présentent au PNF au titre de la protection de la souveraineté économique et judiciaire française. Qu'il me soit permis ici de prendre un peu de hauteur, la coupole qui n'est pas loin d'ici m'y invite assurément, pour vous expliquer en quoi cette problématique constitue un enjeu central pour la politique pénale française, qui devrait inciter les pouvoirs publics à doter le PNF de moyens d'affronter résolument la montée inexorable des actions judiciaires extraterritoriales étrangères visant les intérêts économiques français. Ces dernières années, les États-Unis d'Amérique, les USA, ont progressivement développé un arsenal juridique à portée extraterritoriale en matière d'anticorruption et de contrôle des exportations, qui leur a permis de renforcer leur mainmise sur l'ordre économique mondial et sur les règles du jeu en matière de libre-échange. Si l'adaptation du système juridique français en matière de lutte anticorruption depuis 2013 a permis de mieux procéder et de mieux protéger aussi les entreprises françaises des enquêtes américaines dans le domaine en question, la législation française en matière de contrôle des exportations reste toutefois en dessous des standards internationaux, et ce alors même que le risque se fait jour de voir la Chine adopter une politique extraterritoriale inspirée de celle du modèle américain. Compte tenu de la forte présence des entreprises du secteur industriel français sur les marchés internationaux, une évolution du cadre juridique français me paraîtrait tout à fait adaptée. Tout d'abord, l'extraterritorialité que l'on observe du côté de Washington. Pour les juristes, l'extraterritorialité est un concept tiré du droit international public, qui recouvre le fait, pour un État, de donner application à ses normes au-delà du seul champ spatial de son territoire, qui est normalement le seul socle spatial dans lequel la loi nationale peut trouver application. Il s'agit d'un concept ancien, consacré par la jurisprudence internationale, de longue date déjà, notamment depuis 1927, par, à l'époque, la Cour permanente de justice internationale à La Haye, dans l'affaire dite du Lotus. L'analyse de la coutume internationale permet de dégager plusieurs chefs de compétences dont peuvent se prévaloir les États lorsqu'ils édictent des normes à effet extraterritorial. Ainsi, au-delà du strict principe de territorialité, l'État s'estime compétent pour poursuivre des faits commis sur son territoire, de nombreux pays, comme la France d'ailleurs, appliquent le principe de personnalité active ou passive, l'État s'estimant compétent pour poursuivre des faits commis en dehors de son territoire par ou au préjudice de ressortissants français. Et dans certains cas, cas très particulier, est également appliqué le principe d'universalité qui permet à un État de poursuivre des infractions, quel que soit le domaine territorial de ces faits, comme par exemple en matière de crimes contre l'humanité. Au-delà de ces chefs de compétences classiquement admis, l'interprétation donnée par certains États de ces principes leur permet de déployer de manière très large leur impérium. C'est ainsi que les États-Unis ont développé une vaste législation économique extraterritoriale en application de la théorie des effets, en vertu de laquelle un État peut s'estimer en droit de légiférer et de contrôler une activité économique située à l'extérieur de son territoire dès lors que cette activité a des effets sur son marché intérieur. La manifestation la plus connue de cette théorie des effets, pour être identifiée dans l'application qui en est faite par la loi américaine en matière de corruption internationale, Foreign Corrupt Practices Act, par les procureurs du Department of Justice américain, qui n'hésitent pas à engager des poursuites du chef de corruption, non seulement à l'encontre des opérateurs économiques américains, mais également à l'encontre d'entreprises étrangères, notamment françaises. Le recours à ces procédures extraterritoriales pose à l'évidence un véritable défi pour le respect de notre souveraineté économique et judiciaire. De fait, plusieurs fleurons industriels français ont fait l'objet de poursuites de la part du Department of Justice américain sur ce fondement et ont été contraints à verser à ce titre des amendes financières particulièrement élevées. On rappellera par exemple ici des affaires qui sont encore dans la mémoire, telles que les sociétés Technip et Alcatel-Lucent en 2010, condamnées respectivement à 338 millions de dollars et 137 millions de dollars, la société Total en 2013, 398 millions de dollars, la société Alstom en 2014, 772 millions de dollars. BNP Paribas en a également fait les frais en 2014 dans le cadre d'une procédure menée du chef de violation d'embargo qui s'est soldée par une transaction de plusieurs milliards de dollars, pas loin de 9 milliards de dollars qui ont été versés par BNP Paribas à ce moment-là au DOJ américain. Et enfin, plus récemment, la société Lafarge qui a dû régler un montant de 778 millions de dollars. Si la loi qui a créé le PNF et la loi Sapin II ont permis à la France de faire jeu égal désormais avec les Américains dans la lutte anticorruption, la modernisation de la législation française en matière de contrôle des exportations reste, de mon point de vue, un impensé de nos politiques publiques, et ce alors qu'Américains et Chinois se positionnent de plus en plus sur ce terrain pour asseoir leur domination économique mondiale. Pour combattre à armes égales face à l'extraterritorialité américaine, la France a fait évoluer en 2013 puis en 2016 sa législation en créant le PNF et un nouvel instrument de transaction financière, la Convention judiciaire d'intérêt public dont j'ai déjà parlé, mais également en créant un instrument nouveau, l'Agence française anticorruption. Ces instruments, combinés à l'action menée par le PNF depuis 10 ans, ont permis d'ores et déjà d'obtenir des premiers résultats très encourageants. J'en veux pour preuve le fait que dans le cas des poursuites diligentées contre la Société Générale en 2018, la transaction financière a été partagée entre CGIP française et Deferred Prosecution Agreement, l'équivalent américain. Le PNF a également été amené, dans un même ordre d'idées, à prendre le contrôle de la procédure vis-à-vis des autorités américaines et britanniques, cette fois-ci à l'occasion de l'affaire Airbus en 2020. Et par-delà la conclusion par le PNF de Cegip de plusieurs centaines de millions d'euros avec des multinationales d'origine américaine, telles que Google et McDonald's, dans des affaires de fraude fiscale aggravées, l'ensemble de cette action démontre encore que la justice française joue désormais à armes égales avec ses homologues américains sur le terrain de la régulation judiciaire mondiale dans le domaine de la lutte anticorruption et même en matière fiscale. Je terminerai mon propos en vous invitant à un regard, cette fois-ci plus dirigé sur le contrôle des exportations, un domaine également très important, domaine majeur dans lequel nous voyons les Américains en forte position dominante et les Français curieusement absents. Les entreprises du secteur industriel français, en raison de leur forte présence à l'international, sont particulièrement exposés au risque de se voir poursuivre par les autorités américaines et chinoises dès lors qu'elles ne respecteraient pas certains standards internationaux. Des acteurs industriels français majeurs en ont déjà fait les frais, à l'instar d'Alstom, de Technip, d'Airbus ou de Lafarge, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants. D'autres pourraient encore suivre, notamment dans les secteurs de l'armement, de l'automobile, du luxe ou encore de la chimie et des produits pharmaceutiques. Pour faire face et pour contrer ce risque, deux séries de réformes doivent être envisagées, visant d'une part à renforcer le dispositif de protection français via la modernisation de la loi de blocage et d'autre part à créer un arsenal de contre-mesures de nature à mettre la France au niveau des standards étrangers, en particulier américains. Le premier dispositif consisterait à réviser et à actualiser une loi ancienne qui est souvent appelée loi de blocage, qui date de juillet de 1968 et qui interdit à quiconque de solliciter directement auprès des opérateurs économiques français des informations de nature économique ou financière sans passer par les canaux formels de l'entraide judiciaire internationale. Cette loi, qui s'applique donc aux acteurs économiques français, est souvent mise en avant par ces mêmes acteurs lorsqu'ils sont poursuivis à l'étranger, notamment aux États-Unis, sauf que le juge américain, aujourd'hui, considère que cette loi est en réalité factice, parce que très rarement appliquée et parce que les peines prévues ne sont évidemment pas assez dissuasives. Je rappelle que la sanction de la loi de blocage, qui viendrait punir toute personne qui livrerait à l'étranger des informations économiques sensibles, fait encourir à cette personne une peine, j'allais dire seulement, de 6 mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende, peine considérée à l'étranger comme non significative. Eh bien, je pense qu'il serait temps que le législateur entreprenne une remise à jour de cette peine, de cette infraction, pour la rendre plus crédible vis-à-vis de nos interlocuteurs étrangers, pour que ceux-ci acceptent effectivement de reconnaître les obligations qui s'imposent à nos acteurs nationaux. Deuxième domaine dans lequel une avancée est attendue, ce sont les infractions qui existent à l'étranger en matière de violation d'embargo. Les États-Unis ont fait de la poursuite des violations d'embargos internationaux l'un des axes forts de leur politique répressive. C'est connu de tout le monde, et en France, notamment au PNF, nous observons cette très forte volonté américaine, ce très fort dynamisme en la matière. Or, il se trouve, et il est anormal, que la France soit à ce jour absente parce que dépourvue de législation efficace en la matière. En effet, hormis un délit douanier à la rédaction complètement désuète et dont les sanctions apparaissent dérisoires au regard des enjeux, l'ordre judiciaire français ne connaît aucune infraction pénale susceptible de permettre à la France de se hisser au niveau des standards internationaux en matière de lutte contre la violation des embargos, comme elle l'a fait en 2013 et en 2016 dans le domaine de la lutte anticorruption. Il apparaît ainsi urgent de doter les autorités françaises d'instruments modernes en la matière pour nous permettre et nous mettre en mesure de rivaliser avec nos principaux partenaires. Il conviendrait tout simplement de mettre en place trois types d'actions. Tout d'abord, d'incriminer dans le champ pénal le fait pour tout opérateur économique, français comme étranger, de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive, mesure de sanction, décidée par les autorités françaises ou européennes, et de punir ces non-respects de peines significatives, telles qu'une peine, par exemple, de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y aurait également lieu de prévoir une application extraterritoriale à cette loi pour nous permettre, à notre tour, d'avoir un effet et un jeu extraterritorial comme le font d'autres, ce qui permettrait évidemment d'engager des poursuites dans le cadre de sanctions négociées en utilisant, par exemple, la convention judiciaire d'intérêt public. Enfin, et à l'instar de ce qui a été fait en matière de lutte anticorruption, il serait opportun de créer une sanction de mise en conformité en matière de respect de l'export control, donc le contrôle des exportations, prononcé à l'initiative du parquet national financier et dont le suivi pourrait être confié, pourquoi pas, à un service de Bercy, par exemple l'Agence française anticorruption, dont le périmètre se verrait élargi à cette fin. Mesdames et messieurs, fort de ces 10 années d'activité, le PNF entend s'appuyer sur l'expérience acquise pour envisager résolument l'avenir avec courage et sérénité. En attendant, et pour clore mon propos, laissons-nous porter par cette vision d'Antoine de Saint-Exupéry qui, dans Citadelle, nous propose ce cheminement vers l'avenir. Je le cite, « Préparer l'avenir, ce n'est que fonder le présent. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre. » Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-François Bonnert, pour cette communication qui allie à la fois constat, description, réponse aux critiques et des propositions prospectives. On ne pouvait pas demander mieux.